journal présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La Turquie inflige une sévère sanction à son président Recep Tayyip Erdogan qui rêvait d'une majorité des deux tiers pour modifier la constitution turque. Eh bien son parti, l'AKP, n'obtient même pas la majorité absolue. Nous recevons ce soir la sociologue Nilüfer Gülen et nous irons à Istanbul avec Jérôme Bastion. Le G7 s'achève en Allemagne sur une note optimiste. Les pays les plus riches s'engagent sur le climat, demandent aussi à la Grèce de faire rapidement des efforts et resteront intransigeants avec Moscou. Analyse de Bertrand Galichet. Et puis en France, le procès Béton en cours avec un volet qui vise la magistrate Isabelle Prévost-Desprez. Nous rejoindrons Florence Sturm à Bordeaux, 18h20 du Grain à Moudre, avec vous Hervé Gardette.
Pour une émission en partenariat avec Alternative Économique, jusqu'où peut-on supporter les inégalités? Discussion avec François Bourguignon, Patrick Savidan et Guillaume Duval.
À tout à l'heure. L'actualité internationale est dominée par les résultats des législatives en Turquie avec l'échec, on peut quand même le dire, du parti du président Erdogan. Les islamo-conservateurs dominaient le Parlement depuis 2002. 13 ans de majorité absolue pour Recep Tayyip Erdogan qui misait sur une nouvelle victoire. Or, son parti, l'AKP, le parti de la justice et du développement, malgré ses 40,8%, ne conserve que 258 sièges. Il lui manque 18 fauteuils pour atteindre la majorité absolue. Et la grande nouvelle du jour, c'est aussi la percée du parti pro-kurde. Pour commenter ces résultats, nous avons le plaisir d'accueillir en studio la sociologue Nilüfer Gülen. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche à l'EHESS, spécialiste de l'islam dans l'espace public. Et d'ailleurs, vous venez de publier « Musulmans au quotidien » aux éditions de La Découverte. Vous connaissez bien sûr très bien la Turquie. Alors peut-être d'abord un mot d'analyse générale de ces résultats. J'ai donné le résultat, le score de l'AKP du président Erdogan qui n'obtient pas la majorité absolue. On peut peut-être citer quand même que l'opposition se compose de trois partis. Au lendemain de ce scrutin, à gauche, le CHP social-démocrate obtient 25%, la droite nationaliste fait 16%, et puis il y a la montée que j'ai évoquée du parti pro-kurde, le HDP, qui pour la première fois obtient 13% des voix et va entrer au Parlement. Diriez-vous ce soir que c'est la défaite de l'autoritarisme, du conservatisme qui explique cet échec ?
On peut le dire, mais aussi d'abord, c'est la victoire de la démocratie, je dirais, parce que souvent on dit de la démocratie qu'il y a l'indifférence des citoyens vis-à-vis des élections, il y a des arguments cyniques, la montée de l'autoritarisme dans les pays émergents. Je pense d'abord, c'est la force de la démocratie, la force transformatrice du jeu politique qu'on voit aujourd'hui, et on observe également une certaine joie de la société turque aujourd'hui, un soulagement, effectivement, parce que ce sentiment qu'on virait vers un système autoritaire et l'étouffement de la vie publique, de la vie de tous les jours, on a mis fin, effectivement.
Alors, qu'est-ce qui, justement, a le plus choqué, d'après vous, ceux qui ont voté contre le président Erdogan? Il a collectionné un certain nombre, enfin, en tout cas, vu d'ici, de bévues, enfin, en se montrant extrêmement autoritaire. Il a fait construire ce palais aussi gigantesque, avec plus de 1000 pièces. Il muselle quand même beaucoup la justice. Qu'est-ce qui, d'après vous, entraîne ce sentiment un peu de ras-le-bol, peut-être, de la société ou d'une fraction de la société turque?
Le mot ras-le-bol, c'est pas peut-être le mot, mais en tout cas, c'est dire qu'on veut pas continuer comme ça. Donc, une sorte de redressement de par rapport à ce genre de politique, un style de gouvernance, un clivage, une polarisation, une tension tout le temps, et effectivement aussi une distanciation par rapport à son propre électorat, par l'embourgeoisement et cette utilisation un peu peut-être de l'argent d'une manière un peu ostentatoire, avec des projets hyperpuissance, etc. C'est le mot hyperpuissance, peut-être, à la fois de la personne. C'est comme si l'autoritaire, mais aussi le règne d'un seul homme et la omniprésence de l'État. Et je pense qu'il y a eu deux événements qui ont marqué ça. C'est le mouvement de Gezi, le mouvement de la protestation à Istanbul, de la place publique.
Ça, c'était en juin 2013.
En juin 2013. Donc, ça a commencé donc les mouvements de protestation à Istanbul pour la défense, justement, de la place publique, du jardin public contre ces projets d'aménagement urbain hyper puissant, hyper développementiste. Ça, c'est déjà un événement très important. Ils n'ont pas compris le gouvernement, le sens les revendications des citoyens. Et deuxièmement, c'est Kobané à l'est, donc par rapport aux Kurdes, et aussi cette politique. Je pense qu'à l'est de Kobané,
la chute de la ville de Kobané à l'est, et puis le parc Gezi à l'ouest. Alors justement, on va parler des Kurdes, puisqu'il y a cette montée du parti pro-kurde. En rejoignant à Istanbul Jérôme Bastion, le parti pro-kurde est arrivé donc au-dessus des 10%, va entrer au Parlement en envoyant 79 ou 80 députés. C'est une formation qui a su rallier bien au-delà du cercle de la minorité kurde. Et Jérôme Bastion nous dresse le portrait de l'artisan de cette victoire. Il se nomme Selahattin Demirtaşe et il a réussi une véritable prouesse.
En fait, Selo, comme le surnomme ses fans, nombreux, a réalisé trois prouesses. D'abord et avant tout, il est le premier de toute l'histoire du pays à faire entrer un parti kurde ou majoritairement kurde au Parlement après avoir réussi à lui faire franchir le barrage électoral de 10%. Il a réussi ce tour de force en sortant la cause kurde de son ghetto régional, en la plaçant dans un débat démocratique plus large qui inclut les minorités de la gauche plurielle et dépasse le vote ethnique. Ainsi, il a pu amener à lui les contestataires de Gezi, par exemple, qui était un mouvement largement apolitique. Ensuite, il a réussi à bloquer la route à l'hyper-présidence dont rêvait Erdogan, et cela, beaucoup de Turcs lui en sont reconnaissants. C'était en quelque sorte sa promesse de campagne qui lui a permis de rallier le soutien de nombreux électeurs au-delà de son audience partisane, comme les kémalistes et les laïcs. Enfin, il a réussi, et ce depuis 2 ans, à engager des négociations de paix entre Ankara et la mouvance kurde, notamment le PKK. Pour maintenir le dialogue ouvert, il a réussi à tenir les Kurdes à l'écart des provocations et des violences, comme au moment de Kobané, et sa victoire est une garantie de la poursuite de ce processus. Ce qui a aussi rallié des voix kurdes qui votaient plutôt AKP, mais qui ne veulent plus de la guerre dans leur région. En un mot, Selahattin est un fin politique à visage humain qui sait parler vrai et rester proche du peuple. Il a en outre un grand sens de l'humour et il joue du luth avec brio en chantant des rengaines traditionnelles, ce qui le rend aussi très populaire.
Jérôme Bastion à Istanbul. Madame Gueulet, que dit la victoire du HDP, du parti pro-kurde, de la société turque?
Oui, c'est le changement du nationalisme en Turquie. Donc vraiment, c'est une nouvelle ère parce qu'un parti kurde, déjà, qui représente à la fois la transformation du mouvement kurde, qui était un mouvement de la lutte armée, séparationniste, un mouvement d'abord légitime dans le parti, dans le parlement, mais aussi un parti qui, aujourd'hui, veut transformer la démocratie, qui veut accélérer la démocratisation de la Turquie. Donc, deux tâches quand même très importantes. Peut-être c'est ça la formule magique aujourd'hui de Demirtaş. C'est-à-dire, à la fois, il est en train de transformer le mouvement kurde en une force politique au parlement central, et en même temps, il représente la démocratisation de la Turquie en une nouvelle étape. Donc, il a pu attirer à la fois les votes de l'Est de la Turquie, des Kurdes, mais aussi, comme cela vient d'être bien dit, des votes contestataires, des minorités, des femmes. Il y a beaucoup de femmes. Je dirais les masculinités et les féminités changent avec l'apparition du HDP, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui au Parlement. C'est déjà important. Des minorités également.
Non, 80, j'allais dire 69, 96 femmes 96. Qui ont été élues. Ouais.
Et il y a aussi des minorités à la fois, disons, religieuses, ethniques, mais aussi sexuelles. Il y a eu, justement, à la suite du mouvement de Gezi, ils ont aussi représenté comme candidat un homosexuel pendant les élections, ce qui leur a coûté assez de critiques de la part du gouvernement conservateur. Donc tout cela, c'est un nouveau visage de la Turquie. Donc le mouvement kurde qui est aussi en train de transformer la démocratie turque, le jeu politique.
Alors quel avenir justement pour le parti de M. Erdogan et quel gouvernement? Il a 45 jours pour essayer de former une alliance. Or aucun des trois petits partis qui vont rentrer au Parlement ne veut s'allier apparemment avec l'AKP. Est-ce que vous pensez qu'il peut convaincre par exemple la droite nationaliste?
Je ne sais pas. Les jours qui viennent, ça va être important parce qu'effectivement, il faut maintenant montrer la possibilité de créer un gouvernement de coalition. Il y a un très mauvais héritage, mémoire des gouvernements de coalition, mais justement après une période de stabilité qui commence à être un peu rigide, qui n'est plus représentatif de ce plus pluralisme démocratique en Turquie. Aujourd'hui, on a besoin un peu de l'ingénierie politique pour réussir justement un gouvernement de coalition. Sinon, tout de suite, l'agenda politique va changer et ça va être les élections anticipées, ça va être un moment de crise.
On peut imaginer un nouveau scrutin dans quelques semaines.
Tout à fait, et c'est dommage. Donc, c'est vraiment la responsabilité aujourd'hui des partis d'opposition à se réunir ensemble. Et donc, ce qu'ils disent maintenant, à mon avis, peut-être par rapport à leur parti, c'est une chose, mais ils doivent continuer les négociations entre eux. C'est ça, le jeu démocratique, c'est aussi quand même la diplomatie.
Non, il va y avoir encore des négociations pour savoir pendant 45 jours si le parti de
Et puis il y a toute la question de la nouvelle constitution encore, donc ça ne s'arrête pas.
Oui, parce qu'il faut quand même 2/3 apparemment des suffrages des députés pour modifier la constitution. Et là, pour le coup, le pari n'est pas vraiment gagné. Pour l'AKP. Merci beaucoup, Nilüfer Gülen, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Et je cite encore un de vos ouvrages tout récent sur les musulmans au quotidien, enquête européenne sur les controverses de l'islam, publiée aux éditions de La Découverte. On part à présent pour le château de Elmau en Bavière, où s'est achevé cet après-midi le G7. Angela Merkel recevait ses hôtes qui dirigent les 6 autres grandes puissances de la planète pendant 2 jours. Initialement, la chancelière allemande voulait mettre l'accent, tout comme François Hollande d'ailleurs, sur le climat à 6 mois seulement de la grande conférence de Paris. Mais finalement, la Grèce s'est bien invitée au sommet des grands argentiers. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir.
Vous êtes donc en Allemagne et même Barack Obama, l'Américain, a donné aujourd'hui son point de vue sur les efforts que va devoir faire Athènes, qui est en pleine négociation avec ses créanciers.
Oui, tout le monde se mêle de la Grèce, car c'est un sujet de préoccupation pour les grandes puissances, y compris en effet pour les États-Unis. Cet après-midi, Barack Obama a incité Athènes à faire des choix politiques difficiles qui seront bons pour eux sur le long terme, dit-il, tout en appelant la communauté internationale à prendre en compte les défis extraordinaires auxquels ce pays est confronté. Une façon pour le président américain de mettre la pression sur la Grèce en incitant ses créanciers au pragmatisme. François Hollande, lui, s'est montré plus précis. Certes, la Grèce a fixé une échéance, mais Athènes n'a aucun intérêt à jouer la montre.
La Grèce a renvoyé à la fin du mois de juin le paiement de ses obligations. Donc ça, c'est le délai maximum. Mais rien ne nous interdit d'aller plus vite. Et moi, je pense que c'est l'intérêt de la Grèce que ça aille plus vite. Donc si nous voulons, et nous l'affirmons tous, les Grecs, les Européens, que la Grèce reste dans la zone euro, je pense que nous pouvons aller plus vite. La raison conduit à aller à un bon rythme vers la conclusion d'un accord.
Un point de vue appuyé par Angela Merkel à la fin du sommet. Chaque jour compte maintenant. Il ne reste pas beaucoup de temps, a prévenu la chancelière, organisatrice de ce G7. Un sommet des pays riches qui a par ailleurs acté l'objectif de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2050. Une diminution de 40 à 70% par rapport à 2010. François Hollande espère un préaccord avant la conférence climat de la fin de l'année à Paris. Quant au financement de la lutte contre le réchauffement climatique, il reste très ambitieux, 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020.
Merci beaucoup Bertrand Galichet, en direct d'Allemagne, donc du G7. Et puis toujours à ce sommet, les leaders occidentaux ont parlé terrorisme. Ils s'inquiètent de l'instabilité chronique en Libye en particulier et encouragent les différentes factions à former un gouvernement d'union nationale. Le G7 est prêt ensuite à offrir un soutien financier massif en ce moment au Maroc. Les parlements rivaux de Libye organisent justement des négociations. En bref, encore en Syrie, un raid de l'aviation syrienne a fait 49 morts près d'Idleb, le régime visé les rebelles. Et puis en Belgique, 2 enquêtes débouchent sur un vaste coup de filet dans les milieux djihadistes. 16 personnes liées à un réseau tchétchène ont été arrêtées, à la fois du côté d'Ostende et du côté d'Anvers. En France, l'actualité est judiciaire avec notamment l'ouverture du procès de Forzan Alidza, le groupuscule islamiste que le ministère de l'Intérieur avait dissous. C'était en pleine campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Aujourd'hui, le leader de ce mouvement radical, Mohamed Hachamlan, est apparu à la barre avec 12 autres prévenus. La justice les soupçonne tous d'avoir nourri des projets terroristes. Et puis à Bordeaux se joue un nouveau volet de l'affaire Bettencourt qui concerne la juge Isabelle Prévost-Després, la magistrate qui présidait à l'époque la 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre et qui enquêtait sur l'affaire Bettencourt, est soupçonnée d'avoir enfreint le secret professionnel en livrant des informations à un journaliste du Monde. Bonsoir Florence Thiom, vous êtes à Bordeaux.
Bonsoir Tara.
La magistrate donc Isabelle Prévost-Després a nié les faits cet après-midi.
Oui, le fond du problème, je vais vous le dire, c'est qu'il fallait que le tribunal de Nanterre arrête ses investigations dans l'affaire Bettencourt. Ce n'est pas Isabelle Prévost-Després qui le dit, mais l'un de ses anciens collègues venu témoigner en sa faveur. Tout au long de cette affaire, poursuit Bruno Houssin, on a senti une collusion entre le parquet et Maître Kiegeman. L'ancien avocat de Liliane Bettencourt se moque des assesseurs de la magistrate. Je ne les connais pas, mais ils ont l'air de débiles légers. Pas très plaisant, commente le témoin, d'autant que Georges Kiegeman tiendra aussi des propos injurieux sur le physique d'Isabelle Prévost-Després, son rouge à lèvres dégoulinant. À la barre, elle ne se démonte pas. Je ne l'ai jamais pris très au sérieux. Il a juste touché 1 million d'euros pour venir m'insulter. La tension continue à monter avec le rapport disciplinaire demandé par le procureur de Nanterre et à l'audience de rentrée 2010, au moment où Philippe Courroy prend la parole, magistrat et avocat quittent la salle en signe de protestation. « Bonjour l'ambiance !» s'exclame Benoît Ducossadaire, l'avocat de la partie civile. À Bordeaux, l'échange reprend à fleur et moucheté entre le ministère public et Isabelle Prévost-Després. Des fuites dans cette affaire, il y en avait tout le temps, poursuit-elle. Le Canard Enchaîné avait publié le PV d'audition de Claire Thibault. Je n'étais pas la seule à pouvoir livrer des informations. Le directeur de la PJ parisienne était au courant de tout et certains procès-verbaux partaient directement à l'Élysée. Vous n'avez pas de preuves, l'interrompt le procureur Gérard Aldiger. Un petit sourire de sa part. Oui, mais comme je suis prévenue, je peux dire ce que je veux.
Merci beaucoup Florence Sturm en direct de Bordeaux. Les socialistes ont voulu afficher hier leur unité à Poitiers et hormis la tribune d'Arnaud Montebourg et de Mathieu Pigasse qui est venu de l'extérieur du congrès, ils y sont plutôt arrivés. Les frondeurs sont restés polis et ils ont évité d'imiter les sifflets qui avaient marqué le congrès de l'UMP. Bref, il fallait se rassembler derrière François Hollande et élire un premier secrétaire du Parti Socialiste consensuel, lequel s'est rendu dès aujourd'hui à Lille dans le fief de Martine Aubry, ancienne frondeuse. Bonsoir Frédéric Saïs.
Bonsoir.
Jean-Christophe Cambadélis, donc le numéro 1 du PS, vient, dit-on, apaiser la Fédération du Nord. Alors que se passe-t-il sur place d'inquiétant ?
Eh bien c'est en quelque sorte le troisième tour de l'élection interne qui se passe mal. Il y a eu le vote sur les motions, il y a eu le vote pour le premier secrétaire. Il y a maintenant les votes pour les patrons des fédérations. Or, Martine Aubry est en danger dans son fief nordiste. Son candidat Gilles Pargneau est en difficulté avant le vote des premiers secrétaires fédéraux le 11 juin, en difficulté car l'autre figure nationale du Nord, le ministre de la Ville, Patrick Kanner, a lancé sa candidate dans la bataille. Elle s'appelle Martine Filleul. Ce n'est pas un problème de ligne politique. Tous les protagonistes cités ont soutenu la motion A, la motion pro-gouvernementale. Le camp Kanner a agrégé en fait tout ce que le Nord compte d'anti-aubriste. Et cela fait finalement du monde, comme l'observe un membre du PS local non aligné. Depuis 10 ans d'humiliation publique en déception politique, Martine Aubry s'est constitué un stock non négligeable d'adversaires qui jusqu'à présent restaient discrets, faute d'alternatives. Ce vote interne à la Fédération est l'occasion de faire ressortir ses inimitiés. Il ne faut d'ailleurs pas voir ce conflit comme purement local. Le déplacement à Lille de Jean-Christophe Cambadélis en atteste. L'enjeu, ce sont les 5000 militants que compte la Fédération du Nord. 5000 militants, c'est quasiment 10% du nombre des votants aux dernières élections internes. Et dans les rangs socialistes, on pense déjà beaucoup à l'après-2017. Le congrès post-présidentiel, en cas de défaite, sera celui d'une nouvelle génération. Et sur place, dans les rangs aubristes, on soupçonne Manuel Valls de vouloir mettre la main sur cette puissante Fédération du Nord par l'intermédiaire de son ministre Patrick Kanner. La direction nationale du PS, elle, penche du côté du candidat aubriste. C'est ce qu'a laissé entendre en tout cas Jean-Christophe Cambadélis sur place. D'après une source aubriste, un accord est d'ailleurs en bonne voie en ce moment avec l'idée pour ce poste stratégique de patron de la Fédération du Nord d'une passation de pouvoir en cours de mandat après les régionales de décembre.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Les hôpitaux de Paris annoncent aujourd'hui une première médico-chirurgicale. Des équipes de l'hôpital Necker enfants malades ont réalisé une 6e greffe sur un même patient, une greffe de rein. Les précédents greffons avaient été altérés par la maladie rare dont souffre cette patiente. Mais cette fois, la greffe s'est accompagnée d'un nouveau traitement qui devrait empêcher une récidive de la maladie. Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir.
Vous avez rencontré cette patiente.
Oui, Anne a été opérée le 31 janvier. Elle est restée hospitalisée près de 3 mois et elle revient tous les 15 jours à Necker pour une perfusion de ce médicament qui protège son nouveau rein. Cette 6e transplantation était une opération longue et risquée, mais Anne n'a pas hésité.
Ça s'est très bien passé. Bon, j'ai des petites difficultés après. Il y a un mois, j'ai fait un abcès sur une trompe. C'est rare, mais forcément. Moi, généralement, j'ai tout ce qu'il y a de rare. Ça m'arrive. Mais après, quand on est bien pendant plusieurs mois ou quelques années, ça vaut le coup.
Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez ?
Oh ben, je me sens en pleine forme aujourd'hui. Ça va bien. Enfin, je vis normalement, quoi. Je veux dire, j'ai repris le travail. J'essaie de profiter tous les jours un peu plus, quoi.
La mère d'Anne a vu l'état de sa fille se dégrader sous dialyse. Paulette, qui a perdu ses deux autres filles de la même maladie, est aujourd'hui très soulagée.
Quand on est en dialyse, c'est vrai, ça fait survivre les gens. Je suis tout à fait conscient. Mais c'est pas une vie. Quand vous la voyez, elle revenir, on dirait une petite vieille. Vous savez, elle marche tout courbée. Elle a des crampes. Je lui massais ses pieds. Quand elle était petite, j'ai demandé pour lui donner un mérin. Mais le professeur n'a pas voulu. Sans cette greffe, ce donneur, malheureusement, y a une personne qui est partie, mais qui a fait le bonheur de ma fille. On pense aussi à ces gens.
Seul un tiers des demandes de greffe sont satisfaites faute de donneurs et une greffe ne dure pas toute la vie, rappelle Franck Martinez, néphrologue à l'hôpital Necker.
Une greffe, ça peut parfois être pour la vie quand on a des conditions de similarité avec le donneur, en particulier dans un cadre familial, ça peut durer plusieurs décennies. Plus généralement, les greffes durent un peu moins longtemps et pour les patients jeunes, il n'est pas inhabituel que leur vie nécessite le recours à deux, parfois trois transplantations.
En 60 ans, la lutte contre l'insuffisance rénale a beaucoup progressé et de nouveaux médicaments sont à l'étude. Ils pourraient bloquer la progression de la maladie rénale avant qu'elle ne rende indispensable la dialyse ou la greffe.
Aurélie Kiffer, le temps demain beau, plutôt chaud, malgré quelques orages dans le sud-est. À 22h, prochain journal avec Stanislas Vazak.